Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chez vous, très chers auditeurs de la radio de la paix. C'est l'heure pour nous de parler Bana Okapi. Ce magazine de jeunes et plus jeunes est un programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF. Dans son numéro d'aujourd'hui, Bana Okapi ouvre le débat sur la perte de qualité de l'écriture chez les jeunes. En effet, une grande partie des jeunes peinent à lire et à écrire correctement. Ce constat est largement partagé par des enseignants, parents et autres observateurs. Aujourd'hui, de nombreux étudiants se montrent incapables d'écrire correctement leurs copies, sont composés de phrases mal orthographiées qui n'ont souvent aucun sens et parfois sont illisibles. Ce problème démontre-t-il une baisse du niveau de l'éducation? Qu'est-ce qui fait que les enseignants et professeurs soient de plus en plus tolérants aux fautes d'orthographe? Y a-t-il une solution à ces problèmes? Comment remonter les niveaux d'écriture des jeunes? Éléments de réponse dans ce magazine que je vous propose de suivre. Sarah Soumbela est à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Deps Vita, une réalisation de Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matouakimo Felele Dijanon. Nous lançons ce magazine.
Okapi. Encore plus d'infos.
Bienvenue chers auditeurs, auditrices et internautes. Votre magazine Bana Okapi de ce jour se pose la question de savoir ce qui est à la base de la perte de qualité de l'écriture chez les jeunes. Nous démarrons tout de suite notre tournée avec les jeunes de Béni. Pourquoi de nos jours les jeunes n'écrivent pas correctement? La mauvaise formation de base peut expliquer la mauvaise écriture chez plusieurs jeunes, même si une minorité recourt à l'usage des ordinateurs. Les jeunes de Béni s'expriment tour à tour au micro de Guylaine Kassassia.
Selon moi, les jeunes de nos jours ne savent pas bien écrire par manque d'éducation et manque d'aller mieux régulièrement à l'école. Donc, ils sont privés d'aller à l'école et de bonnes écoles. Alors, plus ils ne vont pas à l'école, plus ils sont en retard de l'éducation. De l'éducation, de l'écriture, sur en base, en général. Donc, les professeurs, les enseignants ne s'occupent pas mieux d'eux. Ça dépend aussi de la façon dont les parents agissent envers l'élève pour aller à l'école. Si on l'oblige, il ne peut pas le faire volontairement et il ne peut pas trop se concentrer à l'école. Mais s'il le fait volontairement, c'est sûr qu'il sera bien appliqué à l'école.
Selon moi, en ces jours, les jeunes ne savent pas bien écrire. Suite d'abord à la négligence, beaucoup de jeunes négligent les études, sont des insolents. Cela permet à réduire leurs compétences à la rédaction. Chacun a sa capacité de réflexion, sa capacité d'agir. Cela est d'abord naturellement en quelqu'un. Si tu sais écrire, cela est d'abord dès le bas âge. Il y a des gens qui sont très aptes à écrire, très aptes à retenir. Mais il y a d'autres personnes où c'est très difficile. Donc, ils ont des difficultés à écrire. D'une part, ça peut être la faute de l'enseignant. D'autre part, même de l'élève ou bien même des parents. L'enseignant, c'est lui d'abord qui est chargé de s'occuper des élèves en classe. Et c'est à lui d'encadrer. Ou bien, s'il s'agit d'écrire, c'est à lui de dire à l'élève, à l'écolier, tu vas monter ou tu vas descendre, tu vas faire ceci, tu vas mettre le point. C'est à lui de se charger de l'élève. Et si l'élève n'assume pas, ça sera la faute de l'enseignant dans ce cas-là. Je peux dire que l'élève est innocent à cet âge-là, oui. Parce que lui, il est totalement dépendant. Mais je peux dire que ça peut être aussi la faute des parents, mais pas de l'élève. L'élève est innocent à l'âge, au bas âge déjà. Les parents, c'est lui qui est chargé aussi, par exemple, des devoirs à domicile. C'est le parent qui peut aider l'élève à assumer ses devoirs. Et si l'enfant ne réussit pas, ça sera la faute du parent ou peut-être de l'enseignant parce qu'il n'a pas bien assuré ou bien assimilé le cours.
Donc, selon moi, ça peut être dû au problème des calligraphies. Ils n'ont pas bien maîtrisé cette notion. Et ça peut être aussi dû à l'hérédité. Peut-être que dans la famille, c'est héréditaire, les parents écrivaient mal et c'est resté aux enfants. Je ne pense pas que ce soit la faute de l'enseignant.
Selon moi, les jeunes ne savent pas écrire correctement ces derniers temps. C'est lié d'abord à la calligraphie. Peut-être que l'enfant n'avait pas bien maîtrisé les notions de la calligraphie et aussi l'hérédité. Par exemple, dans la famille, si les pères ne connaissent pas bien écrire ou bien la mère, ça peut aussi être parmi les caractères qui poussent à l'enfant de ne pas bien écrire. Et aussi, ça peut aussi être... Parce que l'enfant, c'est dans sa nature de ne pas bien écrire, ou soit parce qu'on l'a changé de main. L'enfant écrivait avec la main gauche et après on la change de main. Elle écrit avec la main droite. Donc ça peut aussi faire que ça arrive.
L'écriture aussi doit être héréditaire, par exemple, du parent et l'enfant. Peut-être l'un des caractères, comme à science on dit des ADN, se sont multipliés pour donner. Peut-être l'un des caractères du parent, l'écriture est passé par l'enfant. La femme a mal écrit, tout ça. Aussi une notion de l'école primaire. Peut-être elle n'a pas bien compris la notion de la calligraphie, tout ça.
Selon moi, si les gens n'écrivent pas bien aujourd'hui, c'est lié à la base, leur école primaire et maternelle où ils ont fait ça. Et d'une part aussi, ça dépend d'une personne à une autre. Mais souvent, si les gens n'écrivent pas bien, c'est à cause de leur base. Parce qu'à l'école primaire, si tu as une bonne base, tu peux avoir une belle écriture. Mais si tu n'as pas une bonne base, tu ne peux pas aussi avoir une belle écriture. Et pour d'autres cas, il y a certaines personnes qui sont nées juste comme ça, avec de mauvaises écritures. Et je ne peux pas dire que parce que moi j'ai une belle écriture et que l'autre doit en avoir. Non. Ça dépend aussi d'une personne à une autre. Si on est attentionné à l'enfant, voyons comment l'enfant est en train d'écrire ces trucs de ce genre-là, corriger l'enfant. Ça commence toujours à la base. Si la base était bonne, il n'aura pas de problème quand il va grandir. Mais si la base était mauvaise, l'écriture aussi sera mauvaise.
Pourquoi aujourd'hui les jeunes ont du mal à écrire? C'est aussi une question qu'il faut toujours se poser. Vu que vous-même, vous savez que l'écriture commence dès le bas âge. Nos parents nous ont appris à écrire. Même à l'école primaire, on nous a appris à écrire. Il y a même les cours qu'on appelle calligraphie pour apprendre à écrire. Bon, ça dépend de tout et chacun. Ça dépend pas qu'il y ait une personne. Vu que nous nous différencions dans presque tout. Comme moi j'écris, c'est pas comme mon collègue aussi peut écrire. On nous apprend tous de la même façon. Que quand on monte, on fait ça, les délires, les plaies. On nous apprend de la même façon. Mais c'est la façon de l'interpréter. On peut m'apprendre de ma façon, je vais comprendre de ma façon. Et mon collègue aussi comprendra de sa façon. Ce n'est pas le problème de l'enseignant. Vu que l'enseignant lui-même qui nous enseigne, lui aussi, il a sa propre écriture. Donc, ce n'est pas même le problème de l'enseignant. Ça dépend de tout et chacun. De toute façon, de ta compréhension, de ma compréhension.
Bon, aujourd'hui, les gens n'écrivent pas correctement. Certaines choses, c'est lié à la base. La base, sont les il y a des enfants qui sont à l'école maternelle, qui ne savent pas écrire, et d'autres qui n'ont pas fréquenté l'école maternelle. Or, c'est la base là qu'on apprend les enfants à bien écrire, à soigner leurs écritures, même l'école primaire aussi. Il y a des écoles où on ne prend pas bien soin des enfants, surtout les écoles de l'État où il y a la gratuité à l'école primaire. Quand il y a la gratuité, l'enseignant, lui, il sait seulement qu'on va le payer son argent à la fin du mois. Même s'il ne prend pas bien soin de l'enfant, il aura toujours son argent. Alors, certaines choses sont liées à ça. Surtout, ce n'est pas les problèmes de l'enfant, parce que les enfants ont besoin d'un meilleur encadrement. S'ils sont bien encadrés, exemple, si l'enfant écrit mal et si l'enseignant le corrige, et même s'il déchire son papier, ce n'est pas mal, parce que c'est dans le cas de l'orienter à bien écrire. S'il écrit plus de maintes fois, il écrit seulement la même phrase. Il verra des changements dans l'écriture.
Selon moi, les jeunes n'écrivent pas correctement parce que ça commence dès l'école primaire. Parce qu'à l'école primaire, on apprend à tout le monde comment écrire et lire. Et ça commence toujours dès l'école primaire, je pense. Bon, mais aussi avec la technologie de ces derniers temps qui cherche toujours à utiliser des machines qui peut aussi endommager l'écriture des enfants.
Je peux dire, selon moi, les jeunes n'écrivent pas correctement, c'est parce qu'ils sont handicapés par des machines ordinateurs. À n'importe quel travail, ils utilisent des machines ordinateurs que d'utiliser les manuscrits. Ce n'est pas le problème des enseignants, ça peut être aussi le problème de l'élève. En tant que classe, on est en train d'apprendre comment écrire, l'élève s'embrouille. Alors, ce n'est pas le problème de l'enseignant.
Qu'est-ce qui est à la base de la perte de qualité de l'écriture chez les jeunes? Certains observateurs interrogés sur ces sujets accusent les enseignants de ce fléau. Alors, nous recevons pour vous un enseignant du primaire, les berceaux de l'apprentissage de l'écriture, pour nous parler du problème et nous proposer deux pistes de solutions à ces sujets. Monsieur Adiel Vasso, enseignant au complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant de Jésus de Béni, partage son point de vue dans cet entretien avec Guylaine Kassassia.
Monsieur Adel Vasso, bonjour.
Bonjour madame.
Dans quel cours les élèves apprennent à écrire?
Normalement, dans tous les cours, on apprend à écrire. Mais la branche est très spécifique pour ça, c'est le français et précisément en expression écrite. Et l'expression écrite qui raffirme plusieurs sous-branches selon les degrés. Donc, au degré élémentaire, au degré moyen, on peut voir même la rédaction, la phraséologie et autres choses.
Ce cours est-il important pour les élèves du primaire?
Très, très important. Et vous savez, madame, selon notre ministère de l'enseignement, si vous pouvez permettre que je glisse un petit mot à Kiswahili, c'est, oui, on appelle ça Shule la Msingi. Donc l'enseignement de base, c'est à l'école primaire. Une fois l'enfant revient de l'école primaire sans savoir écrire, et toute sa vie, il peut avoir du mal à écrire. C'est pourquoi l'écriture est très importante à l'école primaire.
Adiel Vasso, qu'est-ce qui fait que les élèves passent des classes sans bien apprendre à écrire, selon vous?
Bien, merci pour la question. Si je fais un petit regard au passé, nous quand on a étudié, on pouvait voir un élève de 3e, de 2e écrit comme une grande personne, contrairement à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà la facilité. Les élèves commencent à travailler avec des téléphones, des machines et ils minimisent l'écriture à la main. Et c'est pour cela que certains peuvent passer des classes sans savoir écrire. D'une autre part, c'est un problème des enseignants. Comment on peut faire passer un élève qui ne connaît pas écrire dans une salle supérieure? C'est une trahison. Donc on doit encore marteler sur l'écriture au niveau de l'école primaire. Ça fait partie aussi de la formation. La femme peut connaître la réponse à la tête, mais ne la sachant pas écrire, il va échouer. C'est pourquoi l'écriture est d'une grande importance.
Vous parlez de l'usage de machines. Les enfants utilisent aussi des machines pour écrire à l'école primaire?
Ah oui, il y a l'informatique qui est déjà là, dans certaines écoles, bien des écoles évoluées, il y a des machines. Et puis, même des TP que l'enfant, au lieu d'aller même saisir et écrire lui-même, mais on va télécharger. La machine va écrire, le téléphone va écrire pour lui et il va venir présenter. Et à part ça, les parents aussi ont aimé la facilité. Quand vous essayez de donner un exercice d'écriture à l'enfant, vous allez voir même une grande personne qui va prendre la copie et écrire à la place de l'enfant. Et ce qui rend tellement l'enfant faible. On va croire qu'on est en train de corriger l'enfant alors qu'on est en train de corriger son grand frère, son père ou bien sa mère qui est à la maison, qui a fait ça pour lui.
En quelle classe les élèves commencent à apprendre à écrire?
Madame, normalement, dans toutes les classes, les enfants écrivent. Et vous allez me poser la question, est-ce qu'en première année aussi, l'enfant peut écrire?
Voilà,
oui, la question, c'est oui, on va écrire. Parce que tu ne peux pas dire A et les A qui est dans l'abstrait que l'enfant ne voit pas. L'enfant doit lire ce qu'il est en train de voir et écrire aussi ce qu'il est en train de dire. Si c'est A, l'enfant doit voir comment on orthographie A. C'est ça. Donc, en première année, on peut aussi écrire. Même si dans certaines écoles, on interdit au degré élémentaire de prendre note, d'écrire, mais on doit écrire, l'enfant doit écrire ce qu'il est en train de dire. Si c'est A, si c'est O, si c'est I, l'enfant doit prendre ça. Alors ça, c'est la première année. Au niveau du degré moyen, 3e, 4e, là, ce sont déjà des petits résumés que l'enfant doit écrire de lui-même. Et là, l'enseignante sera très vigilante de voir les petites fautes d'orthographe qui sautent sous les yeux de l'enfant pour essayer de marteler pour qu'il y ait une bonne écriture, madame.
Et donc, en première, l'enfant doit déjà apprendre à bien écrire toutes les lettres.
Bon, oui, l'enfant doit apprendre à bien écrire, mais on ne doit pas tenir rigueur comme on peut le faire chez les grandes personnes. Donc là, parce qu'il vient fraîchement de la maison ou bien de l'école maternelle, là, ses mains peuvent ne pas être souples à bien tenir les stylos ou bien le crayon. Là, on sera un peu tolérant par rapport aux grandes personnes où il faut une grande rigueur.
Oui, alors, les pléthores dans les salles de classe sont une raison de ces phénomènes?
Bien sûr que oui, parce que la position est liée associée à l'écriture. Vous voyez sur un pupitre où il y a 5 enfants. Et l'enfant tentera de prendre une bonne position pour écrire et vous allez voir son voisin repousser encore sa main. Et quand l'enfant est coincé, il ne saura pas bien orthographier les lettres. Donc, le pléthore impacte négativement aussi à l'écriture de l'enfant. Et à part ça, je pouvais aussi ajouter le fait que notre gouvernement a déclaré gratuite l'éducation et les salles sont pleines. Nous, quand on a étudié, l'enseignant pouvait tenir même la main en train de vous faire montrer comment on fait. Mais actuellement, il y a beaucoup d'enfants il va aider qui? Il va laisser qui? C'est pourquoi, avec la gratuité, bien sûr que c'est bon, mais vous voyez les, déjà des pléthores qui sont dans des salles, ça impacte négativement l'écriture aussi des enfants.
Alors, que faites-vous lorsque vous remarquez qu'un enfant a du mal avec l'orthographe?
Alors, quand l'enfant a du mal à écrire, nous essayons de lui donner quelques stratégies. Comme on peut imprimer des papiers calligraphiques et nous lui demandons d'écrire par exemple un petit texte là, et ça peut lui permettre de bien orthographier les lettres. Parce qu'il y a les lettres à hauteur, à jambage, même les lettres ordinaires, et ça va lui permettre de bien orthographier. Ce sont des exercices. Et à part ça, nous pouvons utiliser des papiers comme ça, papier A4. C'est nos lignées. Vous allez voir, nous allons demander à la fin, même s'il n'y a pas de ligne, de bien orthographier et faire montrer les lettres à hauteur, les lettres à jambage et les lettres ordinaires. Et vous allez voir, avec ces exercices-là, la fin peut se retrouver.
Alors, monsieur Adiel, il arrive que parents se plaignent que son enfant n'écrit pas correctement?
Ah oui, ils arrivent. Surtout au degré moyen, terminal. Un enfant qui ne sait même pas faire la copie visuelle. Et à la maison, parce qu'ils ont déjà qui les oriente à traiter des devoirs à domicile. L'encadré de la maison ne saura pas détecter ou bien décider ce que l'enfant a écrit. C'est une mauvaise écriture. Le parent va se plaindre.
Sinon, comment réagissez-vous à cela?
Alors nous, en tant qu'encadreur à l'école ou bien éducateur, nous allons encore multiplier des stratégies. Exemple, nous allons dire à l'enfant, après l'écriture de son devoir à domicile, bien de son résumé, il va lui-même lire ça devant les autres. Il va lire et en lisant, tu vas voir qu'il est en train de lire les mots que l'enseignant n'a pas mis au tableau. Et là, automatiquement, on annule ça, il reprend. Et en reprenant, il peut être en train d'améliorer. Ah oui, ça, c'est une des stratégies. Et à part ça, il y en a d'autres. Nous leur disons, vous avez réussi la réponse, vous avez écrit, mais votre écriture est bizarre. On peut enlever quelques points. Vous pouvez avoir tout réussi, mais l'écriture est bizarre. On peut enlever moins deux. Et la fin sera en train d'améliorer comme ça. Attaquer professionnel, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous tendons, parce que nous travaillons en partenariat avec le parent, c'est ce qu'on appelle la fraîche collaboration. On demande aux parents de nous fournir tout ce qui est comme défaut au niveau de l'écriture de l'enfant. Et nous allons tenter de répondre positivement avec des exercices, multiplier surtout des exercices et surtout être rigoureux parce que les enfants sont malades. Si vous ne contrôlez pas, il faut écrire ce que vous n'avez pas mis au tableau, madame.
Alors, pour finir, hein, si un élève, par exemple, réussit bien dans d'autres cours, mais a du mal avec les français, d'où il n'arrive pas bien à écrire ses phrases. Cet élève, peut-il réussir à passer des classes?
Bien sûr que oui, et d'autre part, je dirais non. Le français et toutes les mathématiques sont les branches mères à l'école primaire. Si l'enfant ne connaît pas le français, avec toutes ses sous-branches, et le mathématique avec toutes ses sous-branches-là, il peut ne pas réussir, madame. L'enfant qui ne connaît pas écrire aura aussi du mal à travailler dans d'autres branches, comme en histoire, comme à éducation civique et morale. Parce que tout doit s'écrire. Et nous usons le français à tout, même en maths. On peut vous demander quel est le quadruple des 5. L'enfant qui ne connaît pas lire, il ne saura non plus trouver même la réponse, alors que peut-être s'il savait lire et écrire, il pouvait la trouver. Et donc, l'enfant qui ne connaît pas lire et écrire ne mérite pas de passer des classes et selon le programme de cette classe. On ne peut pas comparer l'écriture d'un enfant de première année à l'écriture d'un enfant de sixième. Donc c'est un processus. Il faut que l'enfant quitte l'école primaire et a déjà une bonne écriture parce qu'il ne trouvera plus l'occasion d'être encadré en écriture. Parce qu'à l'école secondaire, là on ne peut plus te dire voici comment on tient la craie, voici comment on tient les stylos. Non, là c'est on peut même dicter. C'est pourquoi il faut toujours former l'enfant en écriture à partir de l'école primaire. Vous voyez, madame, les enseignants ont un grand travail.
Monsieur Adiel Vasso, nous vous remercions.
Nous sommes en train de vous remercier aussi.
Très chers auditeurs et auditrices amoureux du magazine Bana Okapi, nous bouclons la première partie de votre magazine avec cet entretien et on se retrouve juste après pour la seconde partie du magazine Bana Okapi.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, Tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à ceux qui nous prennent en cours de diffusion du magazine Bana Okapi. Sachez que ce rendez-vous quotidien est un programme des jeunes et plus jeunes. Nous parlons aujourd'hui de qu'est-ce qui est à la base de la perte de qualité de l'écriture chez les jeunes. En effet, plusieurs observateurs et enseignants affirment que les jeunes ont du mal à lire et peinent à écrire. Certains accusent les outils de nouvelles technologies, notamment l'écriture des SMS, l'exposition aux écrans. D'autres encore évoquent la tolérance des enseignants et professeurs d'université aux fautes d'orthographe. Mais que faire pour élever les niveaux des jeunes? Que doivent faire les enseignants, apprenants et les gouvernements pour résoudre ce problème? Éléments de réponse dans cette deuxième partie du magazine Bana Okapi. Sarah Sumbela est à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Depso Vita, une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matwakimo Felili Dijanon. Ce magazine est coproduit par Plamedi Mbiyavanga, Grasson Vezolo, Rachel Kessé, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salumu, Étienne Lissumbo, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Nous lançons cette seconde partie. De votre fidélité à ce magazine des jeunes et plus jeunes. Comme vous le savez, Bana Okapi parle de la perte de qualité de l'écriture chez les jeunes. Certains observateurs parlent de la baisse du niveau de l'enseignement et de la négligence de la part des enseignants qui sont devenus de plus en plus tolérants aux fautes d'orthographe. Alors, comment étaient les études à l'époque de nos parents? Qu'est-ce qui faisait qu'ils écrivent beaucoup mieux? Un parent interviewé à Bukavu, M. Modeste, répond qu'à leur époque, il n'y avait pas de distractions comme aujourd'hui, et ce sont ces distractions qui font que les jeunes ne s'adonnent pas à la lecture de livres. Cela les empêche non seulement d'enrichir leur vocabulaire, mais aussi d'améliorer leur orthographe. Il le dit à Rachel Kessimbango au cours de cet entretien.
Bonjour M. Modeste.
Bonjour Madame.
Pourquoi de nos jours les jeunes ne savent pas écrire correctement, selon vous?
Merci beaucoup, madame. C'est une très bonne question. C'est vraiment pertinent. Comparativement à l'ancien temps, les parents qui ont étudié, nous qui avons étudié à l'ancien temps, et comparativement à nos enfants aujourd'hui, c'est très, très différent. Nos enfants ne savent pas écrire. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde, mais la plupart de nos enfants ne savent pas écrire. Le facteur principal par rapport à ça, c'est que dans l'ancien temps, les parents, les élèves avaient l'habitude de lire. Hein, de lire, d'exploiter les romans, de lire des livres, analyser et puis donner la synthèse d'un livre. Mais pour le moment, si vous posez la question à certains de nos enfants, personne ne va vous dire qu'il a déjà lu soit deux ouvrages. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire quoi? La lecture, franchement, c'est la clé même de l'apprentissage. C'est la clé de même de cet orthographe-là. Parce que lorsque un enfant lit un livre, non seulement il reçoit le vocabulaire, mais aussi ça lui permet, n'est-ce pas, de maîtriser l'orthographe de plusieurs mots. Et moi, je pense que le facteur principal par rapport à la non-maîtrise de l'orthographe est tellement lié au fait que nos enfants ne lisent pas, les enfants n'exploitent pas les manuels, ne lisent pas, pratiquement ils ne lisent pas.
Selon vous, l'une des raisons qui fait que les enfants aujourd'hui ne savent pas écrire correctement, c'est le manque de la culture de la lecture. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, vous, nos parents, vous aviez cette culture et qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, n'avions pas cette culture de lecture?
À l'époque, ce que je vais vous dire... nous n'étions pas tellement distraits par beaucoup de choses. À l'époque, rares des fois, on pouvait suivre la télévision. Surtout lorsqu'on a évolué au village, on n'a pas le temps. Peut-être qu'on n'a même pas la télé à la maison. À l'époque, on n'était pas distraits par quelque chose comme le téléphone. Aujourd'hui, nos enfants, ils se préoccupent plus des films à la télévision. Ils se préoccupent plus d'images au niveau des téléphones. Mais à notre époque, on n'était pas distrait par tous ces éléments-là. Et cela pouvait nous pousser à nous occuper de la lecture, exploitation des manuels, lire, synthétiser un livre. Et cela nous permettait facilement de maîtriser le vocabulaire, et à part ça, et même l'orthographe des mots.
Qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui doivent faire justement pour améliorer leur écriture, leur façon d'écrire pour que finalement qu'ils arrivent à écrire correctement? Est-ce que ce n'est pas déjà tard?
Non madame, ce n'est pas encore tard. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Je pense qu'au niveau des écoles, les écoles qui sont chargées de l'encadrement de nos enfants, ils doivent plus, n'est-ce pas, développer cette culture de la lecture, hein, montrer à nos enfants que le secret de la science, c'est dans les livres. Je pense qu'il y a encore du temps. Et donc, à nos jeunes qui étudient dans les écoles, n'est-ce pas, de cultiver, d'avoir cette culture-là des lectures, étant donné qu'avec la lecture, ils maîtrisent non seulement les vocabulaires, mais aussi il y a l'orthographe des mots.
Par rapport aux jeunes qui vous suivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire à leur niveau personnel pour s'améliorer au niveau écriture?
Ils doivent arriver à lire, à prendre du temps pour exploiter les manuels, pour essayer de lire. Même au niveau de leur téléphone, il y a aujourd'hui l'Internet où ils peuvent télécharger des documents et les exploiter, les lire, pour surtout que ce sont des élèves qui évoluent et qui seront demain après-demain les autorités du pays. Ils doivent se cultiver au niveau de l'Internet et faire la lecture.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Pan Okapi de ce jour parle de la perte de qualité de l'écriture chez les jeunes. Les causes et les pistes de solutions sont évoquées dans cette seconde partie avec nos invités. L'un d'entre eux est M. Michel Milambo, enseignant au collège Saint-Vincent de Paul de Kinshasa. Il s'entretient avec Grace Nwezolo.
Bonjour Monsieur Michel Milambo.
Bonjour Monsieur les journalistes.
Vous êtes enseignant au collège Saint-Vincent de Paul à Kinshasa. Avez-vous des élèves au niveau du secondaire qui ne savent pas écrire correctement?
Oui, on en a. On a ce problème-là. On a des élèves qui ne savent pas écrire correctement, comme vous l'avez dit.
Comment pouvez-vous expliquer cette situation?
Bon, en tout cas, le problème commence en amont. Hein. C'est à partir de l'école primaire, parce que c'est là où il y a la base, c'est là où il y a le fondement, la fondation de l'écriture. Et si vous remontez là à l'école primaire, il y a des leçons qui se donnaient avant, mais aujourd'hui qui ne se donnent plus comme il faut et qui ne sont plus considérées à sa juste valeur comme autrefois. Par exemple, la leçon de l'écriture. Aujourd'hui, la leçon d'écriture n'est pas considérée comme il faut. La leçon d'écriture est devenue en fait la leçon de lecture-écriture. Or, dans la leçon d'écriture, il y avait une partie de calligraphie. Et dans la calligraphie, on apprend même comment former chaque lettre. Vous voyez? Alors, ce sont des leçons qui ne se donnent plus comme il faut, voire ça ne se donne plus dans d'autres écoles. Et c'est très difficile pour que l'enfant arrive même à bien former une seule lettre, par exemple. Il y a aussi la dictée. Vous voyez, la leçon de dictée qui s'est donnée autrefois, mais aujourd'hui, la leçon de dictée est carrément oubliée. Or, la leçon de dictée est le prolongement de la leçon de l'orthographe. Et la leçon de l'orthographe aussi, parce que c'est là où on apprend les enfants à écrire les mots, à écrire, à former les mots et à écrire sans faute. Mais ce sont des leçons qui sont un peu négligées. Aujourd'hui, les leçons telles que de l'orthographe est confondue seulement à une leçon de, où on utilise seulement les homophones, par exemple. On, c'est, comment employer les la, les. Donc, ce sont des leçons qui devaient en principe aider l'enfant pour qu'il puisse arriver à écrire sans faute. Mais les problèmes sont légion là-dessus, parce qu'il y a une certaine négligence aussi due au programme que nous avons. C'est un programme qui a complètement changé les choses. Exemple, avant on parlait plus des branches. Nous avions la branche française, la branche mathématique et puis la culture générale. Mais actuellement, on ne parle plus des branches. Toutes les branches ont été transformées en domaines. Et c'est là où vous trouverez par exemple la disparition de certaines leçons telles que écriture dont on parle maintenant, qui est devenue lecture-écriture. Il n'y a plus de calligraphie, dont l'enfant ne sait plus former correctement le mot. C'est tout ça comme problème. Et quand ça arrive au niveau secondaire, on ne met plus la base, on ne met plus la fondation. Là, c'est la continuité. Et on constate tout simplement et malheureusement.
Vous constatez tout simplement quelles sont les solutions palliatives que vous proposez pour récupérer les élèves qui prouvent des difficultés dans l'écriture.
C'est quand même difficile d'un côté. En principe, on doit plus encourager les enfants à la lecture. Que les enfants aient des documents, puissent avoir une documentation, des manuels, des livres pour lire, voir comment sont écrits les mots formés, les lettres. Et au-delà de ça, aussi encourager les enfants à la rédaction. Les enfants doivent beaucoup écrire, parce qu'en écrivant beaucoup, c'est vrai, on va commettre des fautes, mais ce sont des fautes aussi au fur et à mesure. On écrit avec des fautes et on lit, on va se corriger, parce que ce ne sont que des bêtes qui ne changent pas. Donc il faut encourager les enfants plus à la lecture des manuels français ou des livres et à la rédaction. Les enfants doivent beaucoup écrire. Et respecter, n'est-ce pas, tout ce qui est matière en français. Par exemple, là-dedans, il y a la grammaire, il y a la conjugaison, il y a l'orthographe. Tout ça aide l'enfant à améliorer et son écriture, même son orthographe. Parce que la formation des mots pose aussi problème.
Monsieur Michel, lorsqu'un élève arrive en sixième année des humanités, par exemple, et qu'il a des lacunes dans l'orthographe, à qui revient la faute d'après vous?
C'est la fondation. C'est que c'est à l'école primaire d'où revient la faute. Donc là, l'enfant n'a pas été bien formé, parce qu'on prépare l'école primaire pour que les élèves soient capables d'affronter les cursus ultérieurs. Par exemple, l'école secondaire. Donc, quand l'enfant n'a pas été bien formé à l'école primaire, c'est vraiment difficile qu'il puisse bien évoluer à l'école secondaire. C'est vraiment difficile. Donc là, ils doivent vraiment faire tout pour mettre tout ce qu'il faut, mais c'est tout un problème parce qu'il y a beaucoup de domaines, beaucoup de phénomènes. Ça ne concerne pas seulement l'école, ça concerne aussi l'État. Je parlais tantôt du programme national. Et dans les programmes, vous voyez, on n'a pas répertorié, on n'a pas mis l'écriture à sa place et c'est déjà un problème. Qu'est-ce que l'enseignant doit faire? Parce qu'à l'école, vous ne verrez plus une leçon au tableau écrite, leçon d'écriture. Il n'y en a plus. Alors, c'est tout ça comme problème. Il faudrait aussi que l'État puisse un peu aider pour que la situation, en tout cas, soit résolue. Parce que sans cela, c'est tout un problème, c'est difficile. Aussi, la capacité, la responsabilité aussi peut revenir à l'enfant. L'enfant de lui-même aussi n'a pas cette culture de lire, la culture de la lecture, il n'en a pas. On ne se forme pas seulement à l'école, mais aussi soi-même, on peut se former par la lecture. Mais l'enfant n'a pas la culture de la lecture. Tout ça font partie des problèmes. Il faudrait qu'à l'école primaire, qu'ils puissent jouer leur rôle, c'est-à-dire poser le fondement comme il faut, préparer vraiment les enfants à bien et mieux affronter l'école secondaire. Comme ça, à notre niveau, nous pouvons aussi ajouter ce qui manque. Parce que ici, c'est plus le rappel, hein. Prenons un exemple. Vous parlez des adjectifs numéraux cardinaux. Ça, c'est à l'école primaire. Mais en sixième année des humanités, on en parle. Donc ici, c'est plus le rappel de ce que les enfants ont étudié à l'école primaire. primaire et puis les prolongements et puis la profondeur, on note un peu plus en profondeur. Donc à ce niveau de l'école primaire, ils doivent plus travailler pour préparer les enfants à bien écrire et à écrire sans faute les mots, les phrases, etc.
Certains élèves ont obtenu leur diplôme d'état en ayant des lacunes en orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire et j'en passe. Comment pouvez-vous expliquer cela?
En tout cas, la responsabilité là est partagée. Hein. Quand il y a des lacunes dans les chefs des enfants, ça veut dire que l'enfant n'a pas été bien formé déjà à l'école primaire. Et quand l'enfant n'a pas été bien formé à l'école primaire, cela se répercute, ça se remarque dans son cursus scolaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, comme vous avez demandé? Il faut tout simplement bien le former. Il faut que chacun puisse prendre conscience de son rôle. Les enseignants de l'école primaire, son rôle, que l'école primaire elle-même puisse prendre conscience de la tâche qu'il a à former les enfants, à les préparer pour que ceux-ci puissent mieux affronter l'école ultérieure, c'est-à-dire l'école secondaire. Et l'école secondaire va préparer l'enfant pour affronter l'université. Parce qu'à l'université, là, on ne revient plus, par exemple, sur la grammaire et tout ça, conjugaison. Non, non. Là, c'est maintenant, c'est autre chose. Donc, il faudrait qu'à l'école primaire, on puisse mieux et bien former les enfants dans tous les aspects du français. Grammaire, conjugaison, orthographe, analyse, dans tout ce qui concerne le français, que l'enfant soit bien formé. Aussi, que l'enfant aussi lui-même a aussi une responsabilité. Parce qu'il y a ce goût-là, la conjugaison, le goût. L'enfant doit avoir le goût d'apprendre, le goût de se cultiver. Tout ne se donne pas à l'école. À l'école, on donne l'essentiel. Mais quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a, on a ce temps-là d'étudier à la maison? On a le temps de revoir ces matières? On a le temps d'approfondir ce qu'on ne connaissait pas bien à l'école. Je pense que la plupart d'enfants n'ont pas ce temps-là d'approfondir leurs matières à la maison parce que plus ils se bornent seulement à suivre les matières à l'école et ça s'arrête là. Quand ils rentrent à la maison, c'est autre chose, ils se divertissent et il y a aussi l'oubli. Or qu'à la maison, les enfants doivent se donner à la répétition, à la révision des matières vues en classe et aussi approfondir ces matières, avoir le goût de la lecture. La lecture est primordiale. L'enfant doit aussi se former parce qu'aujourd'hui, le rôle d'enseignant n'est plus le rôle seulement d'un dispensateur de matière. Non, non. L'enseignant est là comme un accompagnateur. C'est lui qui accompagne l'enfant. Ça veut dire que l'enfant de lui-même aussi ne vient pas comme un bourrique ou bien un tonneau vide. Non, non. Il a quelque chose en lui. Alors, ce que l'enseignant a fait, c'est tout simplement de mettre en évidence, de ressortir ce que l'enfant a en lui. Parce que l'enfant apprend. Il y a la télévision, il y a la radio. L'enfant apprend. Il y a des livres. L'enfant doit apprendre. L'enfant apprend. Donc, l'enfant qui apprend vient avec ce qu'il apprend, mais c'est à l'enseignant de mettre en évidence, de ressortir ce que l'enfant a appris. Donc, le rôle là est vraiment partagé. Pas seulement à l'enseignant, mais aussi à l'enfant. Pourquoi pas les parents? Il y a baisse du niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo. C'est vrai. Là aussi, la responsabilité est partagée.
Un message à lancer aux enseignants, aux élèves et aux parents, mais aussi aux autorités sur ces sujets.
D'abord, par rapport aux enfants, eh bien, l'enfant doit savoir que j'étudie pour la vie, je me prépare pour la vie. Donc, comme l'enseignant est devenu un accompagnateur, l'enfant doit nécessairement se donner et approfondir, se cultiver, approfondir sa matière. L'enfant doit apprendre à se cultiver. Il y a plus de distractions que le souci de se cultiver. Donc, l'enfant doit prendre conscience d'abord de sa position et puis de sa vie pour se préparer et prendre les choses en main. Quant à l'enseignant doit être un bon accompagnateur pour accompagner les enfants, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent dans sa vie. Par rapport aussi à l'État, l'État doit vraiment préparer les enseignants pour mieux comprendre les nouveaux programmes afin de mieux l'exploiter au profit des enfants. Quand le programme est mieux exploité au profit de l'enfant, assurément les enfants seront aussi, quel que soit le cas, quand même bien formé en ce qui concerne la part des enseignants.
Monsieur Michel Milambou, merci.
Je vous remercie.
Qu'est-ce qui est à la base de la perte de qualité de l'écriture chez les jeunes ? Après avoir écouté un enseignant, on ne s'arrête pas là. On reçoit également Monsieur Stanislas Wanja, directeur au collège Saint-Vincent de Paul, qui nous propose de pistes de solutions pour remonter les niveaux d'écriture des jeunes. Il est également au micro de Grace Voisolo.
Bonjour, monsieur Stanislas Wanja.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur chef d'établissement au collège Saint-Jean Bosco à Kinshasa. Quelle est l'approche pédagogique utilisée par votre école pour récupérer les élèves qui ne savent pas écrire correctement?
Oui, la politique est simple pédagogiquement parce que nous passons par l'orthographe usuelle. Donc, il y a un morceau choisi que nous mettons au tableau le lundi. Chaque lundi, on lit, on fait tout ce qu'il faut, tous les exercices qu'il faut pour l'orthographe et ça passe le mardi, le même morceau, jusque le vendredi et nous passons à la dictée. Une fois que l'enfant a ces quelques mots dans son caboche, je pense bien, la deuxième semaine, troisième semaine, imaginez à la fin de l'année, il aura combien de mots qu'il saura bien écrire. Et c'est ce que nous nous appliquons et ça passe très bien chez nous.
Et là, vous sélectionnez les élèves de quel degré?
Oui, c'est juste, ça constitue une séquence d'apprentissage dans toutes les classes, selon la programmation de chaque classe. Nous prenons cette séquence dure pendant 45 minutes et que nous faisons tous les jours pour s'exercer le samedi après avoir mémorisé l'orthographe du morceau choisi. Donc le degré élémentaire, le degré moyen et le degré terminal. Si c'est la consonne qu'ils ont étudiée, c'est sur cette consonne qu'on va travailler. Et si c'est on est arrivé au mot ou aux syllabes, tout ça, c'est ce qui va constituer cette orthographe-là. Ils maîtrisent très bien. Les difficultés ne sont pas les mêmes. Donc chaque classe s'en occupe selon cette séquence d'apprentissage. Par classe, chaque classe selon ce qui le concerne et on travaille de cette façon-là.
Et généralement, vous le faites à quelle heure? C'est avant les cours ou après?
C'est comme on dit, le fer, on bat le fer lorsqu'il est chaud. C'est tôt le matin, avant de commencer toute activité, nous commençons avec cette dictée visuelle. Et c'est comme ça que ça rapporte. Après avoir terminé ça, nous allons nous lancer dans d'autres séquences d'apprentissage afin de réchauffer la journée.
Et après combien de semaines ou combien de séances que vous pouvez constater l'évolution dans l'orthographe chez les enfants?
Nous constatons cette évolution dès le premier mois, c'est-à-dire le mois de septembre. Nous commençons avant le 1er octobre, nous sélectionnons déjà des bons élèves. Et le deuxième mois, vont s'ajouter les élèves qui sont un peu en retard.
C'est une approche que vous avez commencé depuis quand précisément?
Oui, je l'ai expérimenté, ça fait un peu longtemps parce que ça dure au-delà d'une décennie. Toutes les promotions qui passent chez moi, d'ailleurs certains peuvent me suivre à partir de cette radio, vont le confirmer. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça m'a apporté beaucoup de fruits. C'est ce qui nous donne beaucoup de confiance aux parents.
En dehors de cette approche, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour récupérer les enfants en difficulté?
Oui, autre stratégie, nous renforçons la lecture. Parce que c'est la base. S'il n'y a pas une bonne lecture, tout est nul. Parce que histoire, on va écrire, ça va exiger la lecture. Géographie, problème, ainsi de suite. Donc nous renforçons la lecture. À partir de cette lecture, nous voyons vraiment l'émergence du niveau des enfants et de leur conscient intellectuel.
Est-il possible à un élève de passer des classes avec des lacunes en orthographe, conjugaison, grammaire, dictée et autres?
Ouais, pour moi, on peut pardonner, mais pas l'orthographe ni la lecture. Là, l'élève ne peut pas passer de classe, il doit répondre. Et nous cherchons par tous les moyens à ce que les parents soient convaincus en lui montrant le bien fondé de l'évolution de l'enfant. Au cas où il n'y a pas de lecture, l'enfant ne sait pas lire, ça ne sert à rien, il va toujours consommer de l'argent inutilement. Mieux vaut reprendre et prendre l'élan que de passer sans maîtriser ce qu'on a étudié. Vous savez, le défaut est que certaines écoles qui considèrent les parents comme des clients, ceux-là font passer des enfants comme ça. Mais nous, généralement, nous ne prenons pas les parents comme des clients, mais ce sont des partenaires qui travaillent avec nous à l'éducation de leurs enfants. Donc, le bien fondé des enfants prime sur tout. Mais ceux-là, c'est un conseil gratuit que je leur donne, de ne plus considérer les parents comme des clients. Ce sont des partenaires avec qui on évolue pour l'avenir de leurs enfants. Sinon, nous leur rendons un mauvais service.
Dans votre école, certainement, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. En tout cas, loin de nous, cette histoire-là. Parce qu'il y a des redoublants chez moi. Ceux qui ne méritent pas, même s'ils payent toute l'année au mois de septembre, nous considérons d'abord son conscient intellectuel. Nous nous engageons avec toutes les approches pour le relever. Mais comme le moins doué ne manque jamais, il est toujours là, il doit reprendre. Parce qu'on ne peut pas cautionner les défaillances.
Est-ce que vous avez déjà eu tel cas où l'enfant reprend dans votre école et puis l'année prochaine, vous voyez cet enfant dans une autre école, mais dans la classe montante?
Justement, nous avons déjà vu. Et moi aussi, j'en ai reçu certains. Mais j'ai ma politique. Quand je reçois les élèves, je ne les teste pas le premier jour. Je le garde enfin qu'il s'habitue au milieu. Et après 3 semaines, je passe au test de dictée. Et quand ça ne tient pas, J'appelle les parents pour que l'enfant reprenne la classe où il a quitté. Nous utilisons des arguments qui tiennent debout devant les parents pour que l'enfant reprenne la classe. Et souvent, ils nous ont toujours compris.
En tant que directeur chef d'établissement, selon vous, c'est en quelle classe où l'élève doit savoir écrire correctement?
Généralement, l'élève doit savoir écrire correctement dès la première, selon le volume de sa matière.
La première année primaire.
Première année primaire. Et pour écrire correctement, c'est-à-dire en respectant les sons, parce qu'en première, il saura écrire selon la lecture syllabique. Mais quand il va passer en deuxième, en troisième, il est capable de tout écrire. C'est là, justement, troisième, mais on peut commencer à bien écrire en première selon la valeur ou la grandeur de matière requise pour la première.
Aujourd'hui, nous voyons les enfants arriver à l'école secondaire, voire même à l'université, mais l'enfant ne sait pas écrire. Qu'est-ce qui peut être à la base de tout ça?
Le clientélisme à l'enseignement, c'est ça la base. Lorsque les écoles prennent des parents comme des clients, rien ne peut bien marcher. L'enfant va évoluer avec toutes ses lacunes et ça va arriver jusqu'au niveau de l'université. D'une autre manière, les réseaux sociaux ont aussi dérangé. Parce qu'aux réseaux sociaux, on écrit, on ne tient pas compte de l'orthographe. Et tous ces jeunes trouvent ça normal parce qu'il n'y a pas, c'est pas sanctionné lorsqu'on a mal écrit. Mais on les prend seulement l'essence et on les laisse l'orthographe.
Comment pousser un enfant à avoir cette habitude d'écrire correctement?
Oui, là, c'est question de cultiver ou de développer l'émulation dans des classes. Lorsqu'il y a émulation, chaque enfant cherche à se surpasser ou à dépasser les autres. En ce moment-là, ils auront le goût. Mais s'il n'y a pas d'émulation, donc ça sera difficile. Ils vont trouver ça comme un jeu d'enfant ou quoi que ce soit et ils ne voudront pas prendre le goût sur l'orthographe.
Un message à lancer aux autorités du pays, aux enseignants, aux chefs d'établissement comme vous, mais aussi aux parents et aux élèves sur ces sujets.
Oui, aux autorités et aux parents, c'est de veiller sur l'encadrement des enfants afin que les enfants soient assidus, afin qu'ils soient bien encadrés et bien suivis. Aux enseignants, c'est de développer le goût, parce que le métier d'enseignant est une vocation. Et parce que c'est une vocation, ça veut dire qu'il y a l'amour de ce travail dans le cœur. Et exerçons-nous par rapport à cet amour que nous avons cultivé pour pouvoir transmettre la matière à ces jeunes enfants qui deviendront eux aussi responsables de ce pays.
Et aux élèves?
Et aux élèves, c'est d'avoir cet amour. Parce que ce ne sont pas les sanctions qui peuvent vous donner l'intelligence, mais c'est l'amour d'un travail bien fait à l'école. Lorsqu'on aime les études, on doit travailler comme il se doit et on se trouvera parmi les meilleurs.
Monsieur Stanislas Ouandja, merci.
Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette visite.
Qu'est-ce qui est à la base de la perte de qualité de l'écriture chez les jeunes? Nous en parlons aujourd'hui dans votre magazine Bana Okapi. Alors, que pense le professeur au niveau de l'université sur notre sujet du jour et quelles solutions ont-ils pour résoudre ce problème? Jeff Opela nous propose cet entretien avec le professeur Mukau Ebuel.
Bonjour professeur Mukau Ebuel.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Professeur, avez-vous remarqué que certains étudiants présentent aujourd'hui des lacunes en grammaire, en conjugaison et même en orthographe?
D'abord, merci pour la question. Nous remarquons très bien, en tant qu'enseignants à l'université, les difficultés en écriture chez les jeunes, particulièrement chez les étudiants. Ces difficultés, on les remarque tant lorsque nous sommes en train d'enseigner dans la prise de notes, on les remarque également lorsque nous corrigeons les mémoires, les travaux pratiques, nous corrigeons les travaux de fin d'études. On remarque bien que les jeunes ont beaucoup de difficultés de plusieurs facteurs et varient également selon l'âge, selon le développement, selon plusieurs facteurs en tout cas.
À votre niveau, professeur, que pensez-vous de ces phénomènes? Est-ce la baisse du niveau de formation?
Les difficultés en écriture, je ne peux pas dire, ben voilà, ça dépend du niveau de la formation en RDC, parce que nous parlons du Congo, et il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à la base des difficultés en écriture. Le premier facteur que je peux citer chez les jeunes, c'est le problème d'abord de la motricité fine. Je prends ça depuis le début, lorsqu'on apprend à écrire. On n'apprend pas à écrire lorsqu'on est jeune, voilà. Et lorsqu'on est vieux. Le premier problème peut se situer au niveau de la motricité fine. Nous remarquons que les jeunes enfants peuvent avoir des difficultés à développer. La tenue du crayon, la tenue du bic, ça s'apprend. Et lorsque vous allez en maternelle, vous allez en première primaire, les enseignants ou les éducatrices vous diront que Et parmi les activités qu'il réalise avec les jeunes, il y a la tenue du crayon, la tenue du bic et d'écriture peuvent être la source vraiment de frustration pour certains. Vous avez appris pour certains parents, et j'ai déjà intervenu sur vos antennes, sur la latéralité droite, la latéralité gauche, des enfants qui écrivent avec la main gauche, qui écrivent avec la main droite. Voilà, ça pose un peu beaucoup de problèmes.
Mais professeur, le deuxième problème, oui, vas-y professeur.
Le deuxième problème qui peut être aussi à la base des difficultés en écriture, c'est ce qu'on appelle le problème de orthographique et grammaticaux. Voyez bien, lorsque, au fur et à mesure qu'on évolue avec les apprentissages, l'acquisition des règles orthographiques et grammaticales est souvent un processus long et complexe. Les enfants doivent arriver à la construction d'une phrase, doivent arriver à comprendre bien le sens d'une phrase, doivent savoir pouvoir. Donc, certains enfants ont vraiment du mal à maîtriser les bases de la langue française. La langue la base de la langue française, même la langue parmi les langues nationales, parce que au primaire, notre programme exige aussi plus apprendre en Chiluba, en Kikongo, en Swahili, bon voilà, en Lingala. Et lorsqu'on est au primaire, l'enfant doit aussi maîtriser comment exprimer ses pensées dans une des langues. D'abord, lorsqu'on parle de l'écriture, c'est l'expression, une expression de la pensée, mais par écrit. Et on exprime ses pensées par écrit, et là, c'est à l'écriture. Mais qui peut aussi être à la base des difficultés d'écriture, c'est ce que nous appelons le trouble d'apprentissage. Vous savez que lorsque nous observons beaucoup de gens qui écrivent, c'est-à-dire que lorsque on a une pathologie qui est neurologique, n'est-ce pas, ou neurodéveloppementale, vous savez que les enseignants, les professeurs sont obligés à pouvoir encourager l'enfant à écrire, à pouvoir exprimer ses pensées, non seulement en oral, mais aussi mettre ses pensées et par écrit. Et souvent, ça fait objet de frustration. Certains jeunes aimeraient seulement parler, mais lorsque vous dites de pouvoir mettre ce qu'il dit là, ça semble un peu être inutile. Donc, le manque d'intérêt pour l'écriture créative ou l'expression personnelle peut mener à des écrits illisibles et ça cause beaucoup de problèmes. L'avènement des technologies et de l'écriture numérique, hein, l'usage des ordinateurs, l'usage du téléphone, vous savez que l'utilisation croissante des technologies, notamment les smartphones, notamment les tablettes, peut diminuer la pratique de l'écriture manuelle. Les enfants aimeraient directement, lorsqu'ils veulent écrire, le téléphone l'aide à pouvoir deviner les mots, et ces mots, lui-même ne sait pas écrire, ne sait pas vérifier l'orthographe. Ça fait aussi partie de certaines difficultés qu'on observe chez les étudiants.
Ne pensez-vous pas que vous, les enseignants et les professeurs, vous n'êtes plus regardants, d'où l'expansion de ces phénomènes?
Bon, ce qui est vrai, c'est que les enseignants ne sont pas nécessairement responsables de difficultés en écriture. Hein. Les enseignants ne sont pas nécessairement responsables de cela. D'une certaine manière, oui. Vous savez que lorsque vous arrivez à l'université, nous enseignons et puis on intervient lorsqu'on corrige les travaux pratiques. Les enseignants sont beaucoup plus attentifs à vérifier comment l'étudiant est en train de restituer les travaux par écrit. L'enseignant corrige. L'enseignant ne corrige pas seulement le fond, mais l'enseignant corrige également la forme. Comment l'étudiant est en train d'écrire. Mais ce qui est vrai, à un certain niveau, il y a un laisser-aller. Les étudiants font seulement du fond, vérifient seulement que l'étudiant ait répondu vraiment sur le fond de la pensée, de la matière. Mais les professeurs à l'université tiennent de moins en moins compte de la forme, hein, de la forme du syntaxe. On ne tient pas compte du syntaxe. Je pense que c'est aussi la tâche des enseignants, c'est vraiment interpellation aux enseignants qui sont à l'université par rapport à cela.
Merci professeur. Est-ce possible de réapprendre à écrire en étant déjà à l'université? Vous, à votre niveau, professeur, est-ce qu'il arrive que vous puissiez influencer ou recommander à vos étudiants de revoir leurs cours pour mieux écrire?
Mais oui, en tout cas, je le fais. Lorsque je donne des travaux pratiques, je le fais. Je le fais avec mes assistants, lorsqu'ils travaillent avec moi, lorsqu'ils corrigent et pendant l'enseignement, j'insiste aux étudiants de tenir compte de syntaxe, mais je le fais pas de manière systématique, c'est vrai. Hein, nous sommes dans une interpellation qui est très très intéressante, un plaidoyer qu'on doit faire à nous tous qui sommes enseignants, de pas seulement tenir compte du fond, mais nous devons également tenir compte, n'est-ce pas, de la forme, la manière dont l'étudiant est en train de situer ses pensées. C'est très très intéressant. Imaginez que nous sommes en tant qu'enseignants obligés de former les étudiants, les scientifiques, nos assistants et tous ceux qui viennent. Et pour présenter leur DEA, leur thèse, on devra bien les former comment vous devez également présenter les articles scientifiques à soumettre aux journaux, aux revues internationales. Vous voyez bien que l'international, soumettre, n'est-ce pas, un article à l'international, on ne devra pas tolérer de fautes syntaxiques, donc on devra bien se conformer aux règles de la grammaire, aux règles orthographiques. Ça, c'est très, très important parce que l'international ne va pas admettre n'importe quel article présenté du n'importe comment.
Voilà, professeur, mais comment faire maintenant pour récupérer tous ces jeunes qui ne savent pas écrire correctement aujourd'hui?
Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, d'une manière sommaire, ce que je propose souvent, on devra revisiter. Je pense que l'action ne partirait pas de l'université. On devra bien se référer au renforcement de la motricité fine par des exercices ludiques. C'est-à-dire qu'à partir de la maternelle et du premier cycle, les éducatrices ou éducateurs et les enseignants du primaire devront bien être interpellés sur cette attention-là, de tout faire pour que les enfants puissent bien tenir le crayon et le bic. Deuxièmement, il faudra bien faire attention à ce que nous appelons l'éducation différenciée, la pédagogie différenciée, c'est-à-dire que commencer par identifier les élèves à besoins spécifiques dans ce domaine-là. C'est ça qu'on appelle la pédagogie différenciée. Il faudra bien qu'on puisse stimuler l'intérêt des jeunes pour l'écriture. Les jeunes devront bien exprimer leurs besoins en écriture parce que vous savez, la définition simple du langage, c'est l'expression de la pensée. Et on exprime ses pensées tout en se servant de la parole, mais on peut aussi exprimer ses pensées par l'écrit. C'est là où on devra bien vraiment stimuler les élèves, les étudiants, à toujours, n'est-ce pas, exprimer leurs pensées par écrit. Lorsque j'étais encore au primaire, je m'appelle en troisième primaire, les enseignants nous encourageaient à pouvoir écrire une lettre, adresser la lettre. Ça, c'était une initiation à l'écriture, mais aussi utiliser des outils numériques adaptés. Donc, on ne peut pas encourager les enfants à utiliser, à exprimer de manière fortuite comme ça, mais il faudrait bien encourager les élèves, les étudiants à l'utilisation des outils numériques adaptés comme des correcteurs orthographiques, mais vraiment avoir des outils numériques adaptés. Et les outils numériques qui peuvent vous permettre de corriger ce que vous écrivez et de vous interpeller qu'il y a une faute d'orthographe. Il y a plusieurs facteurs, comme je l'ai dit, et cela nécessite un examen. Et ces députés sont variés, mais peuvent être influencés par des facteurs physiologiques, des facteurs cognitifs, des facteurs sociaux et culturels. Et ici, je pense qu'une approche adaptée et individualisée peut aider à surmonter ces obstacles-là. Le gouvernement devrait bien, au travers tout ce qu'on fait dans les politiques éducatives, mettre l'accent au niveau de la maternelle, au niveau du primaire, sur l'importance d'expression de la pensée par écrit. Parce que la numérisation est venue un peu freiner cela, et les élèves, au lieu de pouvoir écrire, exprimer leurs pensées, se servent carrément à ce qui est numérique, et puis, bon, voilà, sont guidés par le numérique, ils ne fournissent plus d'efforts. Et je pense qu'au niveau de l'attrapage, de la formation, au primaire, à maternelle, le gouvernement devra bien tenir compte de cela. Aux enseignants qui sont au primaire, qui sont à maternelle, au secondaire, ça c'est une interpellation qui est très très importante. Il faudra bien veiller à ce que les étudiants ou à ce que les élèves, au fur et à mesure qu'ils sont en train d'évoluer, qu'on puisse vraiment tenir compte de la manière dont chacun est en train d'écrire, motiver les enfants à exprimer ce qu'ils pensent et par écrit. À l'université, les professeurs d'université devront bien savoir que pendant que nous sommes en train de donner cours, d'exposer ce que nous avons prévu comme matière aux étudiants, on doit jeter bien un coup d'œil sur la manière dont chacun est en train d'écrire et veiller à pouvoir le faire lorsque vous démarrez un enseignement. Et lorsque nous corrigeons les travaux pratiques, les interrogations, les examens à l'université, corriger le fond, mais également corriger, n'est-ce pas, les fautes d'orthographe et veiller à remettre les copies à l'étudiant à ce qu'il comprenne à quel niveau il a pu faillir et qu'est-ce qu'il peut faire.
Et voilà, merci professeur Moukaou Ebouel d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci beaucoup, merci.
C'est par cet entretien que nous bouclons ce magazine Bano Capi du jour. Il était question dans ce magazine d'évoquer les raisons qui font que, de nos jours, les jeunes peinent à écrire. Quelques pistes de solutions ont été proposées, des questions et recommandations des enseignants étaient également au cœur de votre magazine. Un magazine à réécouter sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net ou sur la page Facebook Banao Capi. Restez dans la paix en suivant l'antenne soir animée par Stanislas Diomi.